la musique.
Caravanana maximum.
Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du
sale, 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 sale.
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive le soleil.
Vive
les oreilles.
Vive.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4 en région parisienne et partout ailleurs dans le monde, radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, émission consacrée aux musiques singulières et autres formes de création curieuse.
Tout ça a commencé fort modestement.
Pour montrer que les choses sont
dans l'information.
Tout au long de l'époque chrétienne.
Un tour de passe-passe.
Pathétique.
Il y a la certitude sensible.
De la déraison des hommes et des choses.
C'est pas loin du cauchemar.
Dialectique.
Dans une information constante.
Un petit peu fantaisiste et pas tellement sérieuse.
Littéralement.
La particularité, la singularité.
Atteinte maladie vénérienne.
Pourquoi le faire ?
Un incident technique, en somme.
Ici et maintenant, c'est l'universel vide. Puisque c'est de tout moment de l'espace, de tout lieu, mais zut, non, de tout lieu de l'espace que je dis ici, et c'est de tout moment du temps que je peux dire maintenant.
Les textes sont assez clairs.
Pour le magnétophone et pour le potentiomètre.
Dans la cuisine, dans les water closets.
D'une sorte de grand délire.
Comme artifice poétique.
De la folie du monde, de la déraison des hommes et des choses.
Que
m'en fous.
Que m'en fous-je ? Nous avons lancé un appel à participation auprès de nos amis, musiciens, performeurs, pour leur proposer le thème suivant. À la manière des « que sais-je », il s'agit d'écrire et de mettre en onde une série d'interventions de 40 minutes, très spécialisées et didactiques, mais sur un sujet dont vous ne connaissez absolument rien, ou traité de façon farfelue. L'intérêt consiste à inventer une réalité et de manière la plus sérieuse possible, raconter absolument n'importe quoi. Voilà ce qu'on a écouté cet été dans les oreilles libres, et nous souhaitons prolonger à divers moments de l'année cette expérience. Mais d'abord, toutes nos excuses à vous, auditeurs fidèles ou pas d'ailleurs, ainsi qu'à Félicie Bazaler, nous n'avons pas été en mesure d'assurer l'émission de la semaine dernière. Nous avons d'ores et déjà pris rendez-vous avec Félicie pour le 29 mars prochain, et j'en profite pour la remercier de sa compréhension et de sa gentillesse. Problème de santé, problème de clés, de météo également, cette année il nous est arrivé de ne pas pouvoir diffuser nos émissions, assez rarement mais c'est arrivé, notamment le 31 août dernier lorsqu'il était question des volumes 7 et 8 de notre collection Que m'en fous-je, à savoir la musique nomade de Leon Arellano et Fanny Ossoa, ainsi que la musique alternative tchèque influence du rap français de moi-même. Aussi, nous avons à nouveau demandé au secrétariat de Radio Libertaire si nous pouvions occuper le créneau suivant notre émission, ce qui nous fut accordé, et nous remercions donc le secrétariat de la radio. Merci infiniment. Patrice Cazel est poète et performeur. Nous l'avons reçu le 19 janvier 2018 dans Les Oreilles Libres, à l'occasion de la sortie de son livre Tape Recorder. Il participe à plusieurs formations dans le domaine des musiques improvisées telles que Le Mur du Fond, l'ensemble Citrouille ou Woodstick Trio. Il anime de nombreuses soirées autour de la poésie sonore, notamment tels que les cabarets poétiques qu'il organise à Fontaine-sous-Bois. Il a été récemment un des instigateurs du festival Extension du domaine de la Glotte. On écoute dans la collection Que m'en fouge, le volume numéro 9, Cosmogonie sonore aborigène ou De la fonction tribale de la lettre O à la décadence du lettrisme, de Patrice Cazel, 54 minutes 10 secondes.
Bonjour et merci pour votre présence assidue. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet que son ambition, la création du monde, ne laisse pas d'entrevoir son hasardeuse apparition. Cosmogonie sonore aborigène, c'est le titre. Ou, en sous-titre pour développer, de la fonction tribale de la lettre O à la décadence du lettrisme. Ainsi, j'avancerai prudemment sur ce terrain. Et en façon de prolégomène, j'énoncerai, c'est ma thèse, que l'origine du monde fut dans le son O. Ainsi, et je vous le demande, acceptons mon postulat de départ, comme tel. Et pour débuter cet argument et appréhender au mieux l'objet de la problématique que nous allons rencontrer certainement, sans avoir l'ambition, loin s'en faut, de la cerner en totalité, mais peut-être de soulever un coin de doute, le frémissement d'une réalité seconde quant à sa pertinence en tant que sujet de fait, sinon de possible encore à pourvoir. Commençons, si vous le voulez bien, par ce son O. Expérimentons le son O dans son occurrence primitive, scandé, bougé, vivifié par la voix de l'exécutant. Démarche, voyez-vous, qu'elle soit scientifique, intuitive, documentée, empirique ou conceptuelle, confine à l'exégèse. Tout postulat, dans ses mondanités constitutives, est une totalité. Sur fond de tonalité personnelle, c'est un monde qui sous-tend le multiple et le singulier, par la forme même qu'il revendique et qu'il assume. Quand bien même serait-il le produit, pour ne pas dire la victime ou l'ersatz d'un sens. Son essence étant, pour peu qu'on subtilise à Kant quelques inserts coûteux en définition, mais nécessaires, d'être un tout cohérent par-delà même ses propres faiblesses dialectiques et ses ambiguïtés méthodologiques. Ainsi, pour introduire et fonder en réalité. Acceptons que ce terme de réalité puisse encore supporter aujourd'hui une acception valide. Le sujet qu'il m'importe de débroussailler, excusez encore ce surjon phytotechnique, mais il n'est pas tout à fait gratuit. Car c'est bien de broussailles, faites d'épineuses questions et de floraisons adventices et rhizomatiques qu'il s'agit. Pour peu qu'on s'entende sur la multiplicité des aspects qu'on aura à démêler ici. Que m'en fous-je donc, ou la cosmogonie aborigène par les voies du son ? Et je ne saurais faire l'économie d'un sous-titre inductif, comme je le précisais tout à l'heure, de la fonction tribale de la lettre O à la décadence du lettrisme. Voilà notre projet, voilà notre ambition, notre utopie faite forme. Cosmogonie, donc, du grec ancien cosmos, monde, et gonos, procréation, qui donnera gonade ou contribution de la sexualité orale universelle à la mémoire singulière du monde. Et par les voies, X et voies ES du son. Certes, voix, coquetterie graphologique et lexicale que le contexte de Radio Libertaire m'autorisera à expliciter, car ne pouvant convenir aux yeux. Ainsi le monde, chez les aborigènes, qu'on veuille appréhender ce terme, je vous en supplie, dans sa définition la plus extensive, ceux qui étaient là les premiers. On est aborigène dans le Larzac comme en Australie. C'est la peuplade de fait qui fait le sens et qui le défait par sa mixité d'avec les apports et rapports externes. Théorie qui exclut donc une antériorité mémorielle. Mythologie mue par un opportunisme spirituel, Jésus-Christ, Mao, Bouddha et consorts. Ainsi, par extension, on peut employer sans fâcher le littré le terme d'aborigène pour les primo arrivant dans une cité HLM ou dans une ZAD. Cependant, pour la clarté de cet exposé, nous allons spécifier un type d'aborigène, toujours existant, quoique enquisté aujourd'hui dans un exotisme libéral qui s'intègre mal à son extraction première, l'Australie. Je vous fais grâce des effets secondaires que l'ordre capitaliste mondialisé a généreusement pourvus. Des productions qui font désormais rhizome chez nous, marché du tatouage à Clignancourt, ou rave partie tribale en forêt de Brocéliande, voire soluté mystique entre granites compatibles aux pierres jaumâtres à Toussainte-Croix dans la Creuse. Je vous fais écouter ce dont il s'agira ici, pour affiner vos conduits auditifs, les préparer à l'essentielle immixtion dont vous serez l'objet, à condition de nous suivre jusque-là.
Oh,
Ne croyez pas que ces diversions n'amènent point leur lot de contributions à la thématique envisagée. Je rappelle, pour celles et ceux qui commencent à douter du sérieux de cette aventure, n'ayons pas peur du mot « existentiel », marqué du sceau de l'ontologie pure et sans courtiser jamais d'autres paradigmes moins prégnants, soyons radicaux. Il importe moins de ne pas s'entendre que d'entendre à côté ou de travers. Car il s'agit bien de traiter de l'existence du monde, par les voies d'un inframonde constitué à bien des égards de l'être en soi, et parce qu'il se conçoit ainsi. L'aborigène ne se pense pas, il l'est. C'est un statut, une fiche de poste, un état. Pour lui, le monde a commencé par un son. Pourquoi ? Comment ? J'avance sans prudence. J'énonce la fin avant les motifs. J'affirme que les règles de temporalité ne s'appliquent pas à l'aborigène authentique. Les ancêtres de nos aborigènes contemporains sont à l'identique, dans la même temporalité que les dinosaures les plus académiques. Ils n'ont pas évolué. Et entendons-nous bien, sur le terme d'évolution, que j'emploie à dessein, car il ne présuppose pas un mieux ou meilleur, une plus-value sur un concept à la découpe, une idéologie messianique de progrès humain, comme on l'entend bêtement trop communément. Il s'agit, dans son acception étymologique, d'un changement d'état sans valeur ajoutée, d'un ordre purement contraignant, une transformation, en somme. Et pourquoi ? Et pourquoi n'ont-ils pas changé ? Je frappe toujours sur le même coin, en disant ce bruit, parce que le son, leur création acoustique, suffit à représenter et à émettre du monde en eux. Oui, convenons-en. Nos sociétés modernes sont des sociétés malades de leur finalité. Les aborigènes ont développé, dès l'origine, une cosmogonie complète, non discursive, opérante, associée à la matérialité du son. Par la suite, il leur a suffi, entendons-nous bien, écoutez-moi bien. On arrive à l'acmé du processus, hein, prenez des notes. Il leur a suffi de bricoler quelques stratégies rhétoriques, faire deux ou trois concessions à la notion de hasard et de promiscuité, et oui, les dinosaures carnivores étaient une espèce belliqueuse, souvenons-nous-en, un prédateur motivé. Il fallut s'en démettre pour tendre son hamac entre les branches mouvantes du spirituel et du grégaire. Le son. Voilà ce qui nous a sauvés. Ce qui les sauva. Le son n'est ni modal, ni harmonique, ni discordant, ni discrépant. Le son, chez l'aborigène, est un effet de la langue. Ah, c'est un corps parlant par là où est la bouche. Le monde est donc rond et sonore. D'ailleurs, bien avant Galilée, l'aborigène se définissant d'un point de vue ontologique par « ça » qui était émis par la bouche, avait compris intuitivement, j'ai failli dire instinctivement. Vous voyez comment l'ethnocentrisme occidental fait des ravages dans la rhétorique du plus humble des conférenciers. Avait compris donc, disais-je, que la terre était ronde et sonore. D'où il convient. Ne faites pas la liaison. D'où il convient, maintenant que je le prouve. Et la preuve se fera par l'ouïe. Il n'est de compréhension véritable. Je l'ai dit, et je le redirai sans cesse, que par l'épreuve. C'est en éprouvant que s'instille en nous le vrai ou l'effet de réalité, comme dit Bataille. D'ailleurs, à ce sujet, vous relirez avec profit les derniers textes de Bataille, en particulier « Le réel et sa concubine ». Car votre étonnement soudain m'éprouve. Je reprends. Bien avant Galilée, donc, la terre aborigène était ronde et sonore. Il n'est qu'à voir leur représentation dans le travail des masques. Tout est trou, orifice, anus vocal, pour se référer à Artaud, qui le suscitait, Artaud le momo, et le suscita dans ses outrages phoniques. Je vous laisse méditer de ceci, qui sans doute rappellera au plus assidu à mes cours celui que je commis l'an passé sur le lettrisme dans ses balbutiements glossolaliques. Faut-il penser qu'un Isidore Isou et ses complices lettristes, ce monsieur je sais tout de la lettre sonnante et trébuchante, ce précurseur du signe A sémantique inféodé au son, n'était qu'un piètre imitateur de ce que nous entendons là.
Yeah,
Qu'est-ce qu'on entend ici? Vous venez d'ouïr ce que j'appellerai un concept primitif. Ici, le son n'est pas émis pour lui-même, mais pour ce à quoi il ressortit. Il est en somme l'objet d'une déterritorialisation. Il s'inscrit en dehors de son champ opératoire. Il est exclu de la gangue sémiotique. Il brandit le trophée de l'énonciation humaine au-delà de la masturbation phonatoire contemporaine. Il rejoint par là le babillage sacré d'un arteau shooté au péyote.
Я пьюшка, обрыжка!
revenons à lui. Le son. Ce personnage dans l'histoire des concepts. Car je sens bien. Si. Je sens bien qu'une perplexité que je conçois sans pour autant considérer qu'elle soit un élément critique suffisamment opératoire. Disais-je, une perplexité à nidifier dans votre esprit. Chez certaines et certains seulement, tant il m'apparaît, car celui qui parle vous écoute, il se soumet obligeamment à votre incrédulité, que la majeure partie de l'auditoire a depuis bon temps démissionné de toute volonté d'intelligibilité. Puisse-t-il aller en paix dans les formes secourables d'une réification de la glose en soi? Voilà, c'est dit. Perplexité, disais-je, car ce n'est pas le son qui veut. Il s'agit d'autre chose que de lignes mélodiques, arpèges et tous les périls harmoniques. Ce son-là, émis de la bouche, est le son du corps représenté. Le corps impensé, impensable, inné, induit, est cependant émis. Il est le fruit. Il est le bruit. Il est le fruit et le bruit du passage des temps depuis que la terre est terre. Il est justement inqualifiable. Il n'appartient à aucune donnée que le cogito, je pense, donc je suis, puisse incarner. Incarcérer, intercepter, reconnaître et postuler comme vrai. On ne sait pas ce que ces sons disent de la vitalité des mondes, mais on les sent terriblement présents. On les pressent, chargés d'intention à proférer du vrai. D'ailleurs, je reviendrai sur ce terme de vrai plus tard, en particulier sur l'aspect contendu de l'effet de véracité du vrai. On les sent, disais-je, profondément reliés à l'authenticité d'une humanité primordiale qui, du fait de son statut d'impondérable, nous bouleverse. Ce n'est plus un cri et ce n'est pas encore un chant. C'est le passage. Encore une fois, le conférencier que je suis ne fera pas l'économie d'illustrer son propos par l'expérience de l'écoute, l'épreuve de l'écoute, en tant que preuve, expérience totale, recevable comme telle dans sa finalité de forme accomplie, compacte, bloc conceptuel étanche, sachons convenir qu'elle est une météorite sémiotique, à défaut de définition encore à venir. Ici donc, ô yé é ô é, sur un mode moins organique cette fois, mais dont la force ne laissera pas de nous émouvoir.
Thank you.
Somme toute, ou toute somme, comme vous voudrez, car on ne parle ici de cosmogonie que pour amplifier la notion d'être en soi aux confins des parois de l'existence. Recevez donc paroi de pariétal et prémices du langage premier que l'humus erectum bariola quelquefois dans sa tanière, à temps perdu semble-t-il, tant la pression du survivre collait à ses croûtes comme la gale à ses cheveux. Oui, l'exigence d'une conception globale, d'une totalité-tonalité, hein, voyez-vous, notez ces proximités sémantiques utiles à vos futures émancipations lexicales, car de penser par les mots, nous sommes humains, et trop peu, selon les voies qui nous incombent. Conception globale, dis-je, comme on s'interroge aussi sur les affres inféodés à l'unité, unité de sens, de son, l'expérience ritualisée d'une organicité qui ne s'ignore pas, perpétuellement en train de se faire, étant en cours de temps et au cours du temps sa propre manifestation. C'est ici de l'être de temps que je cause, de l'instant intentatoire et incantatoire. Il ne s'agit pas d'omettre, mais d'émettre du champ, pour sortir du champ de la chose historiée. Ça qui nous empêche, qui brouille la vision, qui alimente nécessairement l'aliénation en cours, qui sera à l'aube de la pensée relative, de la séparation de soi et du monde, car toute image est d'abord son image reflet accordée à la personnification du réel, lointaine colonisation du vrai par les gouvernances du narcissisme. Voilà. Il s'agit donc de s'exfiltrer. Hein, j'emprunte cette locution au vocabulaire policier. S'exfiltrer du monde donné et reçu dans sa complexité, le monde n'est pas simple, il est singulier. C'est la grande découverte de Spinoza. N'est-ce pas? Il est un, mais différent. Hein, différent de quoi, allez-vous me dire? Eh bien, justement, de lui-même. Et vous trouverez la solution chez Nietzsche, hein, mais faudra vous gratter avec les carnets posthumes. Entendu? Et les vrais, pas les faux. Je digresse, mais pas tellement, voyez-vous, car ce que j'entends vous faire entendre de cette cosmogonie sonore aborigène, rappelez-vous, c'est le titre de l'exposé, ce que j'entends vous faire entendre n'est pas une image, une représentation, c'est l'acte créatif primordial, son essence, la pompe ontologique, la valeur esthétique suprême. J'existe parce que je crée de la matière conceptuelle. Un point, c'est tout. J'ajoute au monde, j'amplifie, je produis, je m'introduis par l'acte sonore dans la prodigalité que le monde attend de moi. Ni bazar, ni nécessité, je fais sens. Je fais sens sans le savoir, puisque l'acte n'est pas pensé, il est acté. Car s'il était pensé, conçu, conscientisé, ce ne serait pas l'acte, mais son résultat, sa conséquence, sa perte. Et déjà la dialectique nous enferme dans la causalité aliénante du discours de la séparation, comme dirait Debord. C'est ainsi, par cet acte-là, que l'aborigène collabora à l'expansion de l'être-monde. Et je nous propose maintenant une autre pause musicale, un interlude, une farigounette électroacoustique pour se détendre les tympans, le temps que je remette un peu d'ordre dans mes notes. Merci. d'écouter, c'est quoi ? C'est une pièce sonore, comme on dit aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne fait plus de musique, c'est trop vulgaire. On compose de la musique. On fait des pièces pour bien dire qu'on y a pensé avant de se lancer et que ça peut s'habiter en quelque sorte. Mais aujourd'hui, dans une pièce sonore, on ne crée rien. On récupère. On fait la poussière dans les coins. On gère, on rationalise des hasards acoustiques, on temporise des rythmes éventés, on fait des paix cadencées sur la glace et ça fait vibrer les oreilles. Voilà pour la musique électroacoustique. Je n'y reviendrai pas. Bien sûr, on peut considérer que je ne connais rien à la musique. Et d'ailleurs, ça ne m'empêche pas d'en penser quelque chose, au même titre que Michel Onfray parle de la poésie contemporaine sans l'avoir jamais approchée. Il n'est pire sourd que... projet d'une cosmogonie sonore aborigène, voyez-vous, souvenez-vous, nous étions partis de là. La chose n'est plus la chose, car mentalement, on ignore son existence. La chose est l'acte, la pure création ex nihilo, création hors sol, comme les tomates sur le toit, d'une matérialité sonore prégnante, résistante à l'oblitération narrative. Avant le son, il n'y avait rien. Acoustique ground zéro. Du silence donc ? Même pas. Le silence, voyez-vous ? Le silence, c'est quelque chose. Le silence, ça se mérite. Aujourd'hui, on paye pour l'entendre. On se fait des cures de silence chez les abbés et les abbesses du Tréport. Ils jouissent du silence. Ils jouissent du silence, car pour peu que le vœu de chasteté les chatouille au niveau du corpus érogène, ce flux-là de silence s'écoule dans les voies d'un hymen transcendant qui remplit la matrice asséchée de leur infécondité. Ah ! On se porte mieux derrière que devant dans ces situations-là, je vous l'assure. Voilà pour le silence. Mais quid du rien ? C'est à partir de quoi le son s'émet ? Le Big Bang, le gros prout dans la galaxie. Rien, c'est impensable. L'informel, tout énoncé qui tenterait de le circonscrire, serait ainsi contraint à le réduire. le transposer, le travestir, en faire ce qu'il n'est pas, puisqu'au fond, il n'est rien. Vous me ferez le plaisir, s'il vous plaît, vous me ferez le plaisir de revoir votre bataille sur ce point. Consentez-vous maintenant à envisager l'ambition de notre entreprise. C'est donc ici qu'il advint quelque chose. Un événement, une corde pincée, un vertige sémantique, une expression inouïe. Le poète, ici, par ses métaphores ajustées sur le fil du réel, saurait nous faire entendre ce qu'il en fut, puisqu'il but ce que l'homme a cru boire, comme disait Arthur Rimbald, de poète anthropophage à César. Je digresse. On va maintenant s'enduire, dès lors, d'une nouvelle pièce sonore. Je dirais que celle-ci est postérieure. On sent qu'une praxis est à l'œuvre, et incidemment, on perçoit déjà les flatulences d'une écriture qui s'installe comme terme secourable dans l'épreuve de la sensation de la perte. J'y reviendrai.
Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul
La sensation d'une perte, disais-je. Nous en étions là de notre progression dans l'exégèse de la constitution du monde aborigène par les voies du son. Car, et là, je requiers toute votre sagacité, et là, il n'est rien qui vaille quelque chose. Qu'est-ce à dire ? Il n'est rien qui vaille quelque chose. Qu'un principe nous gouverne, que toute pensée l'emporte sur un impensable. Comme au théâtre, l'acteur qui dit, qui énonce verbalement, aura toujours plus d'intérêt sur le plateau que celui qui en fait le tour en petite foulée. Question de cadre, certes, mais demandez à un spectateur sourd ce qu'il en pense. Voilà, je déplace l'affaire. Pure nécessité d'investir le monde à partir de formes utiles à sa survie. Ainsi, mais de quelle légitimité peut se vêtir ce postulat que quelque chose de pensé vaut mieux qu'un impensable ? Si ce n'est celle de la perte de la souffrance, d'une perte originelle que nous appellerons rapidement, pour ne pas s'égarer en discrédit philologique, une perte de sens. C'est là. C'est là que le son naît de l'aborigène en extase. Consentir à la matérialité de rien par l'ascension d'une voix née du corps qui se nie, car, je l'ai dit, vous reprendrez vos notes, s'il vous plaît, ce n'est pas d'une forme tangible dont il s'agit, l'aborigène conceptualise sa création bien au-delà, pensez à Nietzsche qui s'en sort pas si mal sur ce versant-là, de toutes les prétentions philosophiques qui seront légion à réifier la notion de perte sans jamais la racheter. On peut dire ainsi, maintenant, on peut dire que la rédemption du concept de rien se paye aujourd'hui très très cher, chez le psy, chez le curé ou à Auchan. Nous en sommes à chaque instant les victimes et le produit. Être aborigène, ici ou là, c'est métaboliser la fonction du sonore, être pour soi un impensé, pure fiction du cogito. L'aborigène ne se pense pas, car il est de l'être l'émanation principielle, objective, il est l'objet de sa propre cause, il a senti par le son, qui n'a ni commencement ni fin, puisque vous l'avez entendu, qu'il courait sur la portée d'une onde ontologique captée par un sonar dans la galaxie de l'être et de l'étang. C'est le grand vertige, la prodigalité de l'être en expansion qui ne se réduit pas à sa fonction ontologique. C'est le retournement de toute tentative d'appropriation du réel dans des formes inductives telles peinture, danse, théâtre, en gros succès d'années culturelles indignes qui porteront un coup fatal à la construction de l'être dans toute sa dignité ontologique, la négation de tous les prolégomènes associés à la consécration du réel en tant qu'état, statut, phénomène extérieur à la pensée. Et le son. Le son est cette incontestable réalité qui ne supporte de relativité que dans l'explosion de ses contraintes. Un son libre, comme une radio libre, telle une émission libre, les oreilles libres, le son est sans être, sans maître, il ne promeut aucun devenir, ni ne se réfère à quelque mémoire, c'est une instance vécue dans l'acte de création et qui malgré tout ne s'y résoudra jamais. Là où il y a de la perte, il y a de l'art, il y a de l'espoir. Ce sera l'objet de notre prochaine séance. Qu'est l'art pour l'espoir et qu'est l'espoir pour l'art, je vous en laisse maintenant méditer les effets. Vous pouvez rallumer vos portables, réveiller vos voisins et, s'il vous plaît, retenez l'assise des sièges à rabat avant de vous lever. Merci, à bientôt.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4 en région parisienne. Partout ailleurs, radio-libertaire.net, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, qui diffuse sa série Que m'en fous-je, dans laquelle il s'agit de raconter n'importe quoi. Enrique Pérez est un féru d'expérimentation sonore qu'il pratique lui-même, notamment lors de l'émission Radio X, un vendredi sur deux, et toute la nuit, un vendredi par mois, sur Radio Libertaire, bien sûr. Il assure la technique régulièrement ou au pied levé pour nombre d'émissions. Il a participé aux Oreilles Libres, aux alentours de 2010, 2011, je ne sais plus trop. Une émission autour du Yeti est restée pour nous inoubliable. On écoute dans la collection Que m'en fous-je, le volume numéro 10, Des poils dans la cassette ou de l'incidence de chanteurs de variété espagnole sur une sexualité future de leur auditoire masculin, de Enrique Pérez, 34 minutes 54 secondes.
Que m'en fous-je ? Une collection sonore des Oreilles Libres. Retour dans le passé pour une petite histoire de cassette espagnole. Éminemment insignifiante, mais néanmoins passionnante. Support de masse dans les années 1970 et 1980, la cassette est un objet sonore et visuel propice à diverses manipulations. J'utilise un poste radio double lecteur cassette de marque Kerzo et modèle 438. Je suis dans une chambre mauve. Le mauve est une source d'inspiration. Vamos a ver. Voyons voir. Une particularité de ces cassettes est par exemple des compilations trois artistes qui se partageaient les deux faces et également la pochette de la cassette où apparaissent leurs visages. Comme par exemple celle-ci, Juan Bau, Luis Fierro et Fernando Brocede. Quelques labels alimentaient des vagues de chanteurs séducteurs, romantiques mais virils, quelque part entre le mâle alpha, le gendre idéal et une forme de garçon sensible, mais restons dans l'époque, présentant tout à fait une apparence hétéro-normée du plus bel effet. Plutôt brun, plutôt latin, ces bataillons de jeunes gens, d'hommes, aux cheveux longs pour certains, n'arboraient pas forcément de chemises grandes ouvertes sur des poitrines poilues ou même velues.
Comentarios a veces trágicos, a veces cómicos, que me producen una sonrisa, pido perdón.
Soudé dehors d'hommes virils et romantique, se cachent aussi des sociologues, des poètes, en plus d'être des amoureux, souvent déçus, souvent abusés, faibles hommes par des femmes, comme par exemple ce José Luis Perales, archétype flamboyant du mal, est néanmoins très sympathique, car ils sont également très sympathiques. Malgré la confusion des sentiments, l'instabilité amoureuse, l'indécision personnelle, la contradiction, puisqu'ils peuvent être aussi bien amoureux que strictement revanchards. José Luis, lui, dans deux... Ah non, il n'y a qu'une seule cassette de José Luis, l'autre est un Rodriguez, surnommé El Puma, le Puma. José Luis Perales, donc, dans ce disque, cette cassette de 1974.
Encontrar ya todo igual que ayer. Pero al volver con gran dolor a mí.
Oh, adiós. Lo siento un alto de adiós. Oh, adiós.
Je vais faire une expérience avec ces deux cassettes. À l'épreuve de ce test, à ma droite, Django, avec une compilation de titres de 1973 à 1976 et paru en 1982 chez Emmy Odeon. Django. Et à ma gauche, main gauche, Albano, chanteur italien, qui chante en espagnol. Albano, o sole mio. Albano, chez Amalgama, en certainement 1980, 1979. Pas du tout le même style que les Espagnols, Albano, sur la pochette. À l'épreuve, dans ce frigo rempli de bouteilles, nous les sortirons de là dans 2-3 jours, voir s'il y a eu un effet sur la bande magnétique. José Luis, Juan, Camilo, Fernando, Miguel. José Luis, Juan, Camilo, Fernando, Miguel. Francisco. Si Dígame. Tengo que recentrar mi texto sobre el principal, sí.
Je dois recentrer mon exposé.
D'accordo. Hasta luego. Mais revenons à José Luis Perales, dont je possède bien deux cassettes. Nido de Águila, dont est extraite cette chanson, et puis un disque de 1974 ressorti en 1982 chez Hispavox Discos. Donc ce morceau Muchacho Solitario, Corazón Solitario bajo ese farol, Amigo de la noche, Amigo de la vida te enseñó su canción. Quisiera regalarte las alas de un pequeño gorrión. Beaucoup de solitude chez les uns et les autres. Il est question ici d'un jeune homme à qui il veut offrir, quelle étrange poésie, quel étrange geste, les ailes d'un moineau. On ne sait pas si le reste de l'oiseau est inclus ou il lui offre juste les ailes. Elles sont un peu petites pour s'envoler. Ce jeune homme donc anonyme et solitaire, dont il parle et qui fait le pied de grue sous un lampadaire la nuit en fumant une cigarette, a le cœur qui saigne et se met à pleurer sans raison. Et José Luis suppose que c'est parce que c'est une fille qui l'a déçu et qui ne l'aime pas en retour. Avec les titres de cet album, on peut faire un petit poème. Balada para una despedida. Balada para una despedida. Un muchacho solitario de 20 años. Un muchacho solitario. Es la verdad. De 20 años. No sé si la soledad. No sé. Es la verdad. Si la soledad es la verdad. Ceci nous amène donc au premier indice, la conjuration de la solitude. Le second indice, avec le chiffre 3, le trio. Le troisième indice, les poils. où sont-ils ? Car tous ces messieurs ne portent ni barbe, ni moustache. Mais pas seulement. José Luis nous donne donc quelques indications de plus sur ce qui semblerait être un vaste message codé, disséminé, dilué entre tous ces chanteurs, lancé il y a plus de 40 ans, quelque part. José Luis semble nous mener en bateau. Un autre des points que je voulais soulever était donc ce sous-entendu, ce sous-contexte sexuel hétérosexuel, mais également homosexuel. José Luis donc est bisexuel. Et apparemment, il souffrait de dépression. Dans une autre cassette compilation dont malheureusement nous ne pourrons pas écouter d'extrait puisque la cassette elle-même est manquante, ne reste plus que la pochette. Et contrairement à l'autre cassette compilation, Trois hommes pour le prix d'un, eh bien, ils y figurent tous les trois. Tandis que sur l'autre, Fernando Brosset n'y figure pas. Peut-être était-il trop laid. Une opération séduction doublée d'une opération confusion des esprits. Des séducteurs, il y en a et ils vont se succéder tout au long de cette décennie jusqu'à aborder les rivages des années 80. Avec là également deux cassettes du même artiste qui n'a qu'un seul prénom, Francisco. Lui aussi dans son album. Entre deux ruptures et des retrouvailles, Francisco lui nous délivre un message encore plus clair, mais néanmoins ambigu. Francisco nous propose une autre alternative de mort. Nu, face au soleil sur la plage, il tente de survivre.
Je me suis réfugié dans la chambre verte. Le vert est propice à la réflexion. Pour échapper à Francisco, que je tiens pourtant là, dans ma main. Une cassette, un boîtier de cassette, mesure exactement 11 cm de longueur, 7 cm de largeur et 1,6 cm de hauteur. Vous pouvez vérifier vous-même. Pourquoi est-ce que je vous donne les dimensions d'un boîtier de cassette ? C'est pour vous donner approximativement l'idée de la taille de l'image où figurent tous ces hommes. S'il y a contexte sexuel sous-tendu, il y a forcément fantasme et excitation visuelle. Une pochette de cassette est un petit visuel. D'autant plus que tous ces hommes sont habillés. Pas une seule trace de poil. On peut dire que la cassette non n'est pas propice à l'acte de masturbation. Il est temps de sortir les cassettes du frigo. Les cassettes sont fraîches. Django nous le confirme, déteste-moi. Déteste-moi sans complaisance. Déteste-moi, j'ai besoin d'exister à travers ça. 1975, Django passe le test du froid parfaitement bien. Albano, quant à lui, a un tout petit peu plus de mal avec le test.
Ahora soy sin ti la sombra de aquel que fue feliz. Con ese amor y viviré quizás con la esperanza de encontrar otro amor, porque tuvo que pasarme a mí, porque tuvo que morir así. No es posible que la
salle de bain propice au secret. Porque tuvo que pasarme a mí. José Luis Rodríguez dit le Puma dans une cassette compilation de ses
Mas grandes éxitos, ses plus grands succès, où il raconte qu'il est mort. Mais le message est clair, celui qui délivre la clé. De chanteurs, de charmes, de variétés espagnoles des années 70 et 80 sur une future sexualité de certains qui auraient pu les écouter. Que nous dit cette théorie ici dans le secret de cette salle de bain où l'on traite ses poils? Oh, on les rase. Des relations intimes et amoureuses, compliquées et addictives, de sadomasochisme mental, peut-être un peu physique, avec des hommes poilus, mais non moustachus ni barbus, et à qui il reste encore quelques cheveux. Tout cela menant à une vie de solitude et de dépression, et un quotidien fait de recours aux substances pour noyer son chagrin devant une malfaçon de la vie. Tout cela pour finir, évidemment, par un suicide au barbiturique. Sortilège magnétique. Magnétique. C'était Que m'en fous-je, Que m'en fous-je, à la première personne. Un épisode de la collection sonore des oreilles libres, de l'incidence de chanteurs de variétés espagnoles sur une vie future, un essai radiophonique en 10 cassettes audio enregistré à Montreux dans le 77 par Henrik X du 9 au 17 décembre 2018.
Thank you.
Finalement, des poils, ça s'aspire.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. La grande majorité des propos qui ont été tenus dans cette émission sont faux, inventés. Que m'en fous-je ? La collection qui répond n'importe quoi aux questions que vous ne vous posez pas.